Vous écoutez, on lit pour vous.
Le danger des aliments ultra-transformés. Un texte de Carlos Montero, paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche. Épidémiologiste et nutritionniste, le Brésilien Carlos Montero est conseiller scientifique du groupe d'études sur la nutrition à l'Organisation mondiale de la santé. Il a été l'un des premiers à documenter l'impact des aliments ultra-transformés sur la santé et à proposer un outil de classification devenu depuis une référence. Pour la recherche, il revient sur son parcours scientifique. La recherche. Si vous êtes aujourd'hui un spécialiste reconnu des aliments ultra-transformés et de la malbouffe, c'est avec des préoccupations bien différentes que vous avez commencé votre carrière d'épidémiologiste dans les années 1970. Carlos Montero, oui. À l'époque, l'expression « obésité infantile » ne faisait pas partie de mon vocabulaire quotidien. Au contraire, dans l'hôpital où j'ai commencé ma vie professionnelle comme pédiatre, j'observais une dénutrition infantile sévère due à des apports trop faibles en calories et en protéines dans le régime alimentaire des enfants. Situé dans la région du Vale do Ribeira, dans le sud du Brésil, cet hôpital accueillait des familles d'agriculteurs qui vivaient de l'exploitation de monocultures de thé et de bananes, principalement destinées à l'exportation. Je recevais en consultation des femmes aux conditions de vie très modestes, avec des enfants de moins de 5 ans présentant des retards de croissance, des atrophies musculaires, des maigreurs extrêmes. Je n'avais jamais traité de cas aussi grave à Sao Paulo, ma ville natale, où j'ai fait mes études de médecine. Venaient aussi en consultation d'autres femmes, tout aussi pauvres en apparence, mais dont les enfants grandissaient normalement, uniquement atteints de maladies classiques de la petite enfance. Quelle était alors la situation sanitaire du Brésil? Pour comprendre cette situation, nous disposons des données de l'enquête réalisée en 1975 par l'Institut brésilien de géographie et de statistique. Cette année-là, en moyenne, 18,4% des enfants brésiliens de moins de 5 ans étaient dénutris, soit plus de 2,2 millions de filles et de garçons. Mais cette moyenne cachait de fortes disparités. Ce taux pouvait atteindre 25% des enfants dans le nord-est du pays. C'est une chose de connaître ces chiffres, c'en est une autre d'observer cette réalité crue sur le terrain. J'ai donc commencé à m'interroger sur ma patientèle. Sans le savoir à l'époque, je me suis engagé dans une démarche d'épidémiologiste. Comment avez-vous mené cette première enquête épidémiologique? Nous nous sommes appuyés sur le corps enseignant, qui vivait aux côtés de la population locale dans des logements aménagés au sein des écoles. Ainsi, nous avons pu réaliser en 1975 des mesures anthropométriques, taille, poids, des enfants et des mères. Ces deux types de mesures avaient été validées comme indicateurs efficaces pour estimer la dénutrition infantile par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1969. J'ai complété ces relevés chiffrés par des questionnaires afin de connaître les conditions précises de vie des familles. J'ai ainsi collecté les données de 1005 enfants de moins de 5 ans issus de 593 familles. Quels ont été les enseignements de cette étude? J'ai constaté que les formes graves de dénutrition infantile étaient plus fréquentes chez les enfants dont les mères étaient salariées de grandes exploitations agricoles. Près d'un quart de leurs enfants étaient très insuffisamment nourris. En revanche, chez les petits propriétaires terriens, je n'observais quasiment aucune forme grave de dénutrition. Il y avait, dans les grandes propriétés agricoles de cette région, une exploitation terrible de la main-d'œuvre féminine. Généralement, quand j'observais la dénutrition chez un enfant, je la relevais ensuite chez la mère et souvent chez tous les membres de cette famille. Cette malnutrition protéino-énergétique grave venait du dénuement extrême dans lequel vivaient ces paysans, dont le salaire était bien insuffisant pour pouvoir nourrir toute une famille. Ce travail a été mon baptême du feu. A-t-il orienté vos recherches à votre retour à l'Université de Sao Paulo?
Oui.
Pendant les 20 premières années de ma carrière d'épidémiologiste, j'ai travaillé sur la mortalité et la dénutrition infantile avec comme objectif de repérer quelles seraient les actions les plus efficaces pour faire chuter l'incidence de ces fléaux chez les enfants brésiliens. Par exemple, je me suis intéressé à ce que les scientifiques nomment une expérimentation naturelle, c'est-à-dire qui se produit sans que les scientifiques l'aient programmée et dont l'étude peut être riche d'enseignements. En l'occurrence, entre 1964 et 1973, le taux de mortalité infantile dans la ville de Sao Paulo a augmenté de 30 %, passant de 69 pour 1000 à 94 pour 1000. Pourtant, cette période correspond aux principales années du miracle économique brésilien, au cours desquelles l'économie s'est développée à un rythme de plus de 10 % par an. D'où provient ce paradoxe? Ces années ont commencé par une prise de pouvoir par les militaires qui ont promu une industrialisation rapide du Brésil. Mais cette période a aussi été caractérisée par une baisse importante des salaires. Le salaire minimum légal a diminué d'environ 60 %, note de la rédaction. Plusieurs analyses avait alors suggéré que ces politiques économiques du gouvernement militaire étaient la principale cause de la reprise de la mortalité infantile au cours de cette période à Sao Paulo. Nous avons voulu vérifier cette hypothèse. S'est-elle avérée? Non. Nous avons trouvé d'autres facteurs bien plus convaincants pour expliquer cette hausse soudaine de la mortalité infantile. Le mauvais assainissement de l'eau et la réduction du taux d'allaitement. Nous avons observé qu'une part importante des décès de nouveau-nés, 23,2 pour 1000, était due à des diarrhées. Dès lors, nous avons mené des recherches pour retrouver un panel de femmes qui avaient accouché dans ces années-là, afin de leur proposer de remplir un questionnaire sur leurs conditions de vie au moment de leur grossesse. Beaucoup de ces femmes venaient de régions pauvres du nord-est du Brésil. Lors du boom économique, elles avaient émigré en masse avec leur famille vers Sao Paulo afin de trouver du travail dans les nouvelles usines. Durant cette période, 36 % des enfants seulement étaient allaités jusqu'à l'âge de 3 mois. De même, 68 % des familles avaient accès à l'eau courante à cause de l'incapacité du système d'assainissement et d'approvisionnement en eau à répondre à la forte croissance démographique. Ainsi, non nourris au sein, contaminés trop jeunes avec de l'eau infectée, beaucoup de bébés de Sao Paulo mouraient, leur système immunitaire n'étant pas mature à la naissance. Comment la situation a-t-elle évolué? Le Brésil s'est lancé dans un effort intensif pour améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Le taux de mortalité infantile a connu ensuite une baisse rapide. En 1983, il n'était plus que de 41,6 pour 1000. En outre, de grandes campagnes d'information sur l'allaitement ont été réalisées et en 1984, c'est 60 % des bébés paulistes qui étaient allaités à leur naissance. Vous écoutez « Le danger des aliments ultra-transformés », un texte de Carlos Montero paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche. Et pour le taux de dénutrition infantile, de quand date l'inversion de la courbe? Le taux de malnutrition a connu une baisse importante entre 1996 et 2007. Dans la région du Nord-Est, nous avons montré qu'il est passé de 22,2 % à 5,9 %. Un phénomène inédit. Comment s'explique-t-il? Par une politique publique originale de transfert direct de revenus aux maires. Au départ, les actions politiques contre la malnutrition sont nées pendant la dictature militaire, 1964-1985. Il s'agissait alors de donner aux familles les plus pauvres des colis de nourriture, riz, haricots, lait, huile. Mais ces premières mesures n'ont pas été efficaces. Le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, 1995 à 2002, a eu l'idée d'attribuer directement un complément de revenu aux femmes mères d'un ou de plusieurs enfants, aux personnes invalides et à celles de plus de 65 ans. L'originalité a été d'accompagner ce transfert d'argent par une obligation de vaccination, de suivi médical et de scolarisation des enfants. Ce programme a été perfectionné sous le premier mandat de Lula, 2003-2006, et a été intitulé « La Bourse Famille ». En 2006, il profitait à plus de 11 millions de familles et presque 100% des familles pauvres y ont eu accès. Comment, dans un pays de 215 millions d'habitants, 15 fois plus grand comme la France, arrive-t-on à atteindre les plus pauvres? L'efficacité de la distribution de la bourse famille tient au fait que la liste des bénéficiaires était collectée auprès de chaque municipalité, soit au plus près de la population. Ensuite, à chaque mère de famille, dont on pensait qu'elle était plus à même de gérer le budget familial que le père, était attribué un compte et une carte de débit émis par une banque d'État, la Caixa Economica Federale. Chaque mois, l'aide financière était versée sur les comptes et pouvait être récupérée par les familles dans les boutiques du Loto, une institution nationale qui maille tout le territoire brésilien ou dans les distributeurs de la banque. Ce versement direct réduisait considérablement les risques de corruption et de clientélisme. L'embellie économique brésilienne de cette période et le doublement du salaire minimum sont aussi des facteurs qui ont permis de résorber ces immenses poches de pauvreté. Mais, selon nos recherches, la bourse famille, qui était peu coûteuse pour les finances brésiliennes, moins de 1% du PIB, note de la rédaction, a contribué à diminuer de moitié la pauvreté dans le nord-est du Brésil et avec elle, la dénutrition notamment, celle des enfants. Comment avez-vous pu faire cette démonstration? Nous disposions de statistiques solides au niveau national, niveau de malnutrition des enfants, revenus de la famille, niveau d'éducation de la mère. À partir de ces données, nous avons pu créer des modèles statistiques probabilistes et observer l'évolution de la santé des enfants sur une période de 20 ans. La prévalence de la dénutrition infantile a diminué d'un tiers pendant la première décennie, de 33,9% à 22,2%, et de près des trois quarts entre 1996 et 2006, de 22,2% à 5,9%. Pour les 10 premières années, l'amélioration de la scolarisation des mères, un meilleur accès à l'eau potable et de meilleurs services d'assainissement ont été particulièrement importants dans le déclin de la dénutrition infantile, tandis que l'augmentation du pouvoir d'achat des familles les plus pauvres et la scolarisation des mères ont été plus importantes au cours de la deuxième période. Cependant, si la dénutrition se résorbe chez les enfants, un nouveau fléau émerge, l'obésité. Comment avez-vous documenté ce nouveau problème de santé publique? Nous avons eu la chance de nous trouver au bon endroit, au bon moment, avec des données de grande qualité. Nous disposions en effet d'études longitudinales menées depuis 1975 par le gouvernement brésilien en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Il s'agissait, pour ces deux institutions, de mesurer le coût de la vie et l'inflation au Brésil. Le principe de la collecte de données était la suivante. Pendant 7 jours consécutifs, un échantillon représentatif de 50 000 familles brésiliennes recevait la visite à domicile d'un enquêteur ou d'une enquêtrice qui notait l'ensemble des dépenses consacrées à l'alimentation, famille de produits par famille de produits. La FAO avait suggéré de compléter ce recueil de données par des mesures de la taille et du poids. À l'époque, il s'agissait de savoir si les achats alimentaires couvraient les besoins en calories des Brésiliens. Mais personne n'avait utilisé ces données pour mesurer la progression de l'obésité du pays. Avec les données de 1975, nous avions en quelque sorte une année zéro, c'est-à-dire une année où l'obésité était quasiment inexistante au Brésil. En retravaillant les données de ces enquêtes et celles des années suivantes, nous avons pu commencer à documenter l'apparition de l'obésité dans la population brésilienne. Ainsi, elle est passée de 11,8% de la population en 2006 à 18,9% en 2016. Vous écoutez « Le danger des aliments ultra-transformés », un texte de Carlos Montero paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche. Quelles ont été les premières hypothèses pour expliquer son émergence? Nous avons travaillé à partir du concept de transition alimentaire, défendu dans un premier article publié en 1994 par le nutritionniste américain Barry Popkin, spécialiste de l'obésité et professeur à l'École de santé publique de l'Université de Caroline du Nord. La question que nous nous posions, tous à l'époque, concernait les éléments responsables de cette transition. Les premiers facteurs évoqués par nos collègues américains était l'augmentation de la sédentarité et l'utilisation plus importante des matières grasses pour les préparations culinaires, fritures par exemple. Cet accroissement de l'emploi de l'huile dans l'alimentation était étayé par les données de la FAO. Nous avons voulu le vérifier sur la population brésilienne en nous servant des données sur les achats alimentaires de nos compatriotes. Qu'avez-vous observé? Contrairement à l'hypothèse de Barry Popkin, ces données montraient que les achats d'huile, mais aussi de sucre et de sel, diminuaient chez la majorité des Brésiliens et particulièrement en zone urbaine. Mais, parallèlement, nous avons remarqué une augmentation des achats de biscuits, de soupes instantanées, de boissons rafraîchissantes. Ce n'étaient plus les Brésiliens qui mettaient du sucre, de l'huile, du sel dans leur préparation culinaire. En fait, cela était réalisé en amont par les industriels qui les utilisaient pour fabriquer les produits. De cette observation est née l'idée de changer la classification des aliments initialement élaborés en fonction de leur teneur en glucides, lipides ou protéines. Cette classification réalisée par les institutions n'était plus opérationnelle pour décrire les nouveaux modes de consommation des Brésiliens. Sur quoi repose votre classification? Notre idée a été de classer les aliments selon leur degré de transformation. Nous l'avons nommé NOVA, nouvelle en portugais. À l'époque, nous n'étions pas les seuls à proposer une nouvelle classification des aliments. Au moins 6 autres ont été suggérés dans le monde entier. Mais c'est la nôtre qui a été considérée comme la plus précise et qui a finalement été adoptée par la communauté scientifique mondiale. Elle consiste à classer les aliments en 4 catégories. Les aliments bruts, tels que les légumes ou le lait, groupe 1. Les ingrédients culinaires, comme l'huile et le vinaigre, groupe 2. Les aliments transformés à partir des 2 premières catégories d'aliments, le fromage ou le pain, groupe 3. Et les aliments ultra-transformés, comme les nuggets de poulet, les sodas ou les céréales du petit-déjeuner, groupe 4. Quels sont les critères pour classer un aliment dans la catégorie des ultra-transformés? Ce sont des critères qui reposent sur les procédés innovants de l'industrie agroalimentaire qui ont abouti à la transformation profonde de la façon dont s'élabore la nourriture industrielle. Pour augmenter considérablement leur marge, certains industriels remplacent des aliments bruts par des substances extraites de ces aliments, isolat de protéines par exemple, ou en modifient la matrice alimentaire grâce à des techniques extrêmes de transformation physique, extrusion, moulage, cuisson sous haute pression, ou chimique, hydrogénation, hydroxylation. Ces substitutions alimentaires et ces transformations peuvent être telles que l'on trouve dans les supermarchés des aliments ne contenant aucun aliment brut, préparé uniquement avec des substances industrielles. C'est le cas, par exemple, de substituts de viande consommés par les personnes véganes. Or, comme toutes ces substances assemblées entre elles n'ont ni le goût, ni la texture, ni la couleur d'un plat traditionnel, on leur ajoute des additifs, arômes, colorants, émulsifiants, que nous avons qualifié de cosmétiques, car ces molécules ne sont pas ajoutées pour assurer la santé du consommateur, mais pour lui donner l'illusion de manger un produit qu'il connaît. De surcroît, pour assurer leur diffusion et leur commercialisation, ces produits sont fabriqués de telle sorte qu'ils procurent des plaisirs rapides, à l'inverse des expériences alimentaires plus complexes que nous avons eues jusqu'à présent. Enfin, ce sont des produits qui se conservent longtemps et bénéficient de campagnes de publicité et de marketing agressives. Si je devais définir un aliment ultra transformé d'un point de vue intellectuel, je dirais qu'il a pour but de remplacer le repas fait maison et de générer le plus de bénéfices possible, comme c'est déjà le cas pour les boissons. À ce sujet, le Mexique est un cas d'école, avec 75% de la population en surpoids ou obèse et une consommation excessive de soda. C'est-à-dire, on a constaté que le Coca-Cola y est vendu moins cher que l'eau et présenté aux consommateurs en bonbonnes de 10 litres. Plus généralement, le Mexique est une expérience scientifique naturelle d'un pays soumis à un marketing agressif des marques de produits ultra transformés. En 1994, ce pays a signé un accord commercial de libre-échange, à l'ENA, avec les États-Unis et le Canada. Il a exporté vers l'Amérique du Nord ses légumes et ses fruits qui sont devenus plus chers pour les Mexicains. En échange, les industriels de l'agroalimentaire américain ont exporté leurs produits avec les conséquences sanitaires que l'on sait. Cette nouvelle classification vous a-t-elle permis de montrer les effets de leur consommation sur la santé? La première série, 2011-2018, de travaux menés notamment par notre équipe de l'Université de Sao Paulo, NUPENS-USP, a montré que, par rapport aux aliments qui n'étaient pas transformés, les aliments ultra-transformés avaient une densité énergétique supérieure, une teneur plus importante en sucre ajouté, en graisse saturée, en sel et une teneur plus faible en protéines et fibres. Et donc, qu'il y a une relation directe entre le régime alimentaire déséquilibré d'une personne et sa consommation d'aliments ultra-transformés. Puis, à partir de 2015, il y a eu toutes les études fondées sur le suivi de grandes cohortes de participants sur plusieurs années. Vous écoutez « Le danger des aliments ultra-transformés », un texte de Carlos Montero paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche. Menées dans différents pays du monde, elles ont montré que la consommation quotidienne d'aliments ultra-transformés était associée à des maladies chroniques, diabète, obésité, à une mauvaise santé cardiaque ou encore à une augmentation de cancer et même à des conséquences sur la santé mentale. Un autre résultat de ces études a été de mettre en évidence que, quelles que soient les traditions culinaires d'un pays, la substitution des repas traditionnels par des repas à base d'aliments ultra-transformés altérait la santé. Citons aussi une étude de 2019 qui, pour les épidémiologistes, a constitué une sorte d'étalon or. Il s'agit de l'essai croisé randomisé et contrôlé du National Institute of Health, NIH, aux États-Unis. Deux groupes de volontaires ont consommé pendant 2 semaines le même type de repas, mais dans l'un des groupes. Le menu était imaginé avec 80% des calories provenant d'aliments ultra-transformés, tandis que dans l'autre groupe, le menu était pensé à partir d'aliments traditionnels. Chaque participant mangeait selon sa faim. Au bout de 2 semaines, les scientifiques ont pu constater que les participants du premier groupe avaient pris du poids, presque 1 kg, et mangeaient 3000 calories par jour, tandis que dans le second groupe, dont l'alimentation était équilibrée, les participants ne consommaient en moyenne que 2500 calories et avaient perdu du poids, 1 kg. Après plus de 10 ans de travaux, y a-t-il encore des axes de recherche majeurs à développer sur ce thème? Oui, j'en vois 2. D'abord, nous devons mieux comprendre les mécanismes physiologiques qui sont derrière l'ensemble de ces études observationnelles. Par exemple, on sait aujourd'hui que les émulsifiants, très fréquents dans la composition des aliments ultra-transformés, augmente la perméabilité de la paroi intestinale et provoque un état d'inflammation chronique dans l'organisme. Mais il y a d'autres mécanismes à identifier. Quelles sont les interactions entre les additifs et le microbiote? Comment agissent les nouvelles molécules formées lors de la fabrication de ces produits, acrylamides, sur l'organisme? Comment le bisphénol A où les phtalates, en contact avec ces aliments par les emballages, rentrent en interaction avec notre système digestif. Comment ces produits modifient-ils la digestion, vitesse du transit, satiété, biodisponibilité? Toutefois, ces études ne sont pas simples à mener car ces produits sont constitués de substances variées et très différentes les unes des autres. Ce premier axe est important pour améliorer la connaissance scientifique. La communauté scientifique n'identifiera toutefois pas l'ensemble des mécanismes en jeu dans ces dérèglements alimentaires prochainement. C'est un travail de très longue haleine. Et quel serait le second axe de recherche? Le plus important serait d'effectuer des recherches sur l'efficacité des politiques publiques de prévention en s'inspirant du modèle mis en place pour lutter contre le tabagisme. Financer des campagnes d'information sur les risques des aliments ultra-transformés, interdire la publicité pour ces produits, les interdire dans les espaces publics, apposer un logo d'avertissement sur ces produits. Enfin, réfléchir à une taxation efficace dont les revenus serviraient à développer la consommation de produits frais comme les légumes et les fruits. Le phénomène que vous décrivez est mondial. Ne faudrait-il pas, à la manière de la recherche en climatologie, créer un GIEC de la nutrition? La communauté des nutritionnistes diffère de celle des climatologues. Dans leur écrasante majorité, ces derniers partagent en effet le même constat sur le changement climatique, ce qui a conduit à la création du GIEC. Il n'y a pas de consensus sur les effets délétères des aliments ultra-transformés dans la communauté des nutritionnistes, car une partie est financée par l'industrie agroalimentaire. Ainsi, si en France, les recommandations nutritionnelles du Programme national Nutrition Santé invitent à limiter la consommation de ces produits, ce n'est pas le cas de son équivalent américain, le Dietary Guidelines for Americans, DGA. Des études financées par les industriels américains de l'alimentation ont participé à semer le doute, empêchant l'adoption de messages de prévention dans le DGA. Un comble dans un pays où 15 millions de jeunes sont obèses et où 58 % des calories ingérées proviennent d'aliments ultra-transformés. C'était « Le danger des aliments ultra-transformés », un texte de Carlos Montero, paru en septembre 2023 dans le magazine « La Recherche ». ».